Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Bonne fête à tous les sportifs, bonjour à tous, puisque c'est comme ça qu'il faut le dire, peut-être pour la première fois, c'est la première fête nationale du sport. Aujourd'hui, c'était une volonté du président de la République Emmanuel Macron l'année dernière, après la parade sur les Champs-Élysées des médaillés de Paris 2024. Et ben voilà, nous y voici, on avait la fête de la musique, on a la fête nationale du sport désormais. Bonne fête, Julien Beneteau, qui est aujourd'hui autour de la table. Salut Julien.
Salut Georges, salut tout le monde. Merci, ouais. Je suis encore un sportif, mais...
Oui.
On est encore loin de la fête de la musique.
Hein. Attends, mais il faut laisser le truc
s'installer. Mais bien sûr.
Oh. Bonne fête à Marion Bartoli, également. Salut Marion.
Bonjour les amis.
Oui, bon, salut Marion. On va faire la fête du sport aujourd'hui.
Mais oui.
Marion qui est...
On fait la fête tous les jours, donc voilà. C'est du sport.
Marion qui est de retour après deux semaines à Flushing Meadows. Hein, où,
oui.
Là, elle nous a ouvert toutes les portes. Hein. John McEnroe était dans Bartoli Time. Non, c'était... impressionnant pour le coup de à tes côtés Marion pendant ce tournoi du Grand Chelem.
Avec plaisir.
Pascal Duprat est avec nous en studio. Bonne fête Pascal.
Bonne fête Georges. Bonne fête à toutes et à tous.
Ça va?
Impressionnant non?
Impressionnant. Ouais. Impressionnant en studio. Pascal qui est là. Il est monté à Paris parce qu'on lui a promis la semaine dernière un combat dans une cage avec Fred Weiss.
Oui, mais il est pas là. Il est pas là.
Ouais, il se voilà. Simplement.
Il s'est débiné.
Peut-être que la stratégie que t'avais dit de lui tourner autour.
Ça l'a fatigué déjà.
Simon Dutin est là. Bonne fête.
Ah, j'ai cru que t'avais bonne fête du sport.
Bah si,
on a mal pris, Georges.
C'est notre fête à tous.
Mais quel sport?
Les journalistes sportifs, quel sport?
C'est un petit peu tout. Foot, golf, tennis de table. Les courses aussi beaucoup à la maison.
Tu dirais que t'es multimédiaillable en fait quoi.
Ouais.
Je vais pas voler les.
Je suis moyen.
Jeux du sport.
Je suis moyen partout. Ouais.
Jeux du sport. Ah
ouais. Je te préviens Marion, tu vas découvrir les jeux du sport.
Hein, pour la première fois. Est-ce qu'on peut vérifier? On a vérifié si Marielle Guetschel n'est pas dans les 20 sportifs.
Ah non, non mais.
Il y a eu des réactions.
Non mais elle est toujours pas. Non elle est toujours pas.
Deux titres olympiques.
Là je t'explique Marion, on est toujours en train de remettre en cause le jeu d'hier. Donc
t'as perdu Simon.
Je dirais pas que j'ai perdu, je dirais qu'on m'a volé.
Non, mais hier, on cherchait, Marion, les 20 plus grands médaillés français de l'histoire des Jeux, les 20 champions olympiques, voilà. Et Simon a proposé quelque chose qui n'est pas passé, il ne s'en remet toujours pas.
À deux titres olympiques, on n'est pas dans les 20, on est sûr de ça, c'est minimum 3.
Ouais, c'était minimum 3.
non,
mais alors là, c'est.
D'accord.
Attends, tu me remets en cause tout de suite.
Non, mais
Simon ne soit pas mauvais perdant, s'il te plaît.
C'est incroyable.
Perdre, ça va, mais se faire voler la victoire, c'est différent.
Oh là là, mais c'est incroyable. Tu vas commencer avec un point de pénalité tout à l'heure. Je le disais, première fête nationale du sport aujourd'hui, un an après les Jeux de Paris. Dans quelques instants, on va recevoir ici en studio Marie Barsac, la ministre des Sports démissionnaire, notre invitée pour parler de la place du sport en France. Votre vestiaire à Angers aujourd'hui, eh bien en fait le sport. Donc on voulait vous demander comment le sport vous a transformé, vous les grandes gueules qui remontent le temps également. Il y a 3 ans, un artiste du tennis prenait sa retraite. On va se plonger dans l'émotion de Roger Federer.
Moi c'était avant. Il y a 3 ans quand il y a un artiste du tennis.
T'as cru que c'était toi?
Oui, avant que tu décédères.
J'en revenais pas.
Ah, moi aussi, j'ai cru que c'était Julien.
Non, mais en fait, il prend la confiance, Julien, parce
que. J'ai le brassard.
Parce qu'il a le brassard, le capitaine, aujourd'hui, effectivement. Coup de gueule, parce que tu as vu la Coupe Davis encore creuser sa tombe cette semaine, même si les Bleus se sont qualifiés pour la finale. Je te préviens. Marion est déjà pas d'accord. Hein. Ah, oh là là, c'est du teasing là. Puis en fin d'émission, donc les jeux du sport, envoyez sport au 7-32-16 pour en participer. Sport au 7-32-16. On a des cadeaux à vous faire gagner. 32-16 pour participer.
Tout est déjà truqué alors.
Et parler aux jeux. Arrête de dire ça. Même, on a un huissier de justice et tout, Maître Abolin, qui est en régie. Notre WhatsApp 06 12 424 424 pour participer également. Tiens, événement dans les grandes gueules du sport également. Vous pouvez remporter vos places pour le classique OM-PSG dimanche prochain. À 20h45 au Vélodrome. Pour remporter vos places pour OM-PSG, envoyez classique par SMS au 7-32-16. Classique, c'est LASSIQUE au 7-32-16. Mais d'abord, le PSG se prépare à remettre son titre en jeu cette semaine en Ligue des Champions avec une grande nouveauté par rapport à la saison passée, l'infirmerie.
RMC, la une des grandes gueules du sport.
Mbappé est là, Olise est là, Barcola est là. J'ai pas vu de Désiré Doué. C'est un choix. Il va rentrer, Ousmane Dembélé. Entre dès la pause, à la place de Désiré Doué.
Il a l'air très blessé.
Ce qui est déjà une très bonne nouvelle par rapport à sa blessure, parce que si le staff décide de le faire rentrer, c'est qu'ils ont des garanties sur la récupération de sa blessure.
Qu'est-ce qu'il a de cassé ?
Je n'en sais rien, mais il pousse des gémissements de temps en temps, ce qui prouve qu'il est encore vivant.
Dembélé blessé.
Ah là, c'est
il se tient
nouvelle.
La cuisse.
Il marchait très bien et il s'est détraqué d'un seul coup.
Si on cherchait une petite polémique dans cette rencontre, ce sera celle-ci, parce que le PSG va peut-être pas apprécier le fait que le staff médical des Bleus ait pris le risque de faire entrer Ousmane Dembélé.
À l'entraînement, on se fait mal.
Eh ben, faites-vous mal, puisque vous voulez en faire qu'à votre tête.
Malheureusement, c'est arrivé, ça concerne deux joueurs du PSG. Le PSG, c'est pas notre adversaire. Ça l'a jamais été. Les clubs n'ont jamais été.
Là, tu t'es fait mal.
Oh, putain. On a une pensée pour Jean-Charles Sabatier, hein, qui s'était cassé la gueule sur le plateau de l'équipe du dimanche. Non, on a réécouté. Retour au quotidien de la Ligue 1 pour le PSG aujourd'hui à 17h15 face à Lens au Parc des Princes. Et une rencontre évidemment à suivre sur RMC dans l'intégral foot avec Karine Galli et Jean-Pierre Papin tout à l'heure. À la différence de la saison dernière, le PSG est confronté en ce moment à un nouveau problème. Les blessés, conséquence forcément des calendriers infernaux. Ça devait arriver. Dembélé doué sur le flanc. Fabien Ruiz, bon, finalement, il est de retour. Même le coach Luis Enrique s'est blessé en faisant du VTT. La Ligue des Champions commence ce mercredi à 21h sur la pelouse de l'Atalanta. Il y aura des confrontations compliquées à Barcelone, à Leverkusen, contre le Bayern, Tottenham, à Bilbao. Les GG, la question que je vous pose ce matin, vous me dites oui ou non, avant le retour de la Ligue des Champions, la santé physique du PSG est-elle préoccupante ? Pascal Duprat ?
Non.
Marion Bartoli ?
Non. Julien on a Bennett. Nouveau jingle,
dis donc. Ah oui, mais attends, mais tu crois quoi? T'as vu, on est là, on se met dans l'énergie. On n'a plus production. Peur. Plus de musique qui fait peur désormais. C'est, on rentre bien dans la matinée. Julien Benneteau.
Non.
Simon Dutin.
Bah oui.
Simon Dutin me dit oui.
Ça, je l'ai pas trouvé comme ça, genre.
Supporter parisien, vous applaudant au 32-16. Évidemment, d'abord, on accueille Arthur Perrault avec nous, qui suit le Paris Saint-Germain pour RMC. Salut Arthur.
Salut les GG. Salut à toutes et à tous.
Tu seras en commentaire tout à l'heure de la rencontre face à Lens. À quel point la gestion d'effectifs, les blessures sont un casse-tête et une préoccupation pour le staff parisien cette saison, Arthur?
Est-ce que le staff parisien justement avait parfaitement géré la saison dernière semble bien moins embarqué. La faute d'abord à une Coupe du Monde des clubs jusqu'à la mi-juillet aux États-Unis. Dans la foulée, seulement 3 semaines de vacances pour les joueurs et 4 petits jours de préparation avant la Super Coupe d'Europe, souvenez-vous, contre Tottenham à Udine en Italie. Luis Enrique et ses adjoints ont quand même pris une décision forte, redonner du rythme au cadre, et ce, dès la reprise de la Ligue 1. Par exemple, Dembélé et Doué ont joué contre Angers. Le trio de titulaires au milieu de terrain, Neves, Vitinha et Ruiz, ont débuté le match contre Toulouse. Mais cette semaine, le calendrier va s'accélérer considérablement. L'entraîneur parisien a été clair hier en conférence de presse. Je le cite, on doit savoir gérer ce contexte. La situation n'est pas facile car chaque joueur a une situation différente. Après Lens, Paris défie l'Atalanta en Ligue des Champions mercredi et 3 jours après, le club de la capitale enchaîne avec le Classique à Marseille. De quoi pousser le staff à faire tourner dès cet après-midi au Parc des Princes. Zaïre Emery, Beraldo et Lucas Hernandez pourraient débuter en défense. Lee, Ramos et Kvaratskhelia sont attendus comme titulaires en attaque.
Merci Arthur, tu restes avec nous évidemment. Ben ça déjà, les informations sur la compo probable, ça nous donne quelques clés peut-être pour ce débat. Pascal, tiens, la santé physique du PSG n'est pas préoccupante pour toi, pourquoi ?
Bien sûr qu'elle est préoccupante, mais je pense pas que ce soit un handicap, parce que depuis maintenant 3 mois, on nous parle de cette Coupe du Monde des clubs et de l'impact que cette épreuve aurait eu sur les joueurs du Paris Saint-Germain. Bon, on va attendre un peu avant de faire un bilan et de savoir exactement quel sera ou quel a été le réel impact de cette compétition sur les joueurs du PSG, mais aussi sur tous les joueurs qui ont disputé cette épreuve. Et ils sont nombreux, ils sont tous internationaux pour la plupart. Non, ce que je veux simplement dire, c'est que on va prendre les temps de jeu effectifs parce que j'ai un peu bossé hier. Donc je voudrais vous amener juste sur le cas de Doué, par exemple. Doué.
Là, il vient d'installer un rétroprojecteur et
non, mais Doué, il a disputé 3300, je crois, minutes et en fait, ça a la valeur de 40 matchs au total pour une saison. Vous allez me dire, c'est beaucoup. Je veux vous dire, c'est peu à 20 ans, et c'est peu en 2025, quand on est préparé comme le sont aujourd'hui les sportifs de haut niveau et donc les footballeurs professionnels, qui plus est les footballeurs professionnels du Paris Saint-Germain, qui disposent peut-être tous à peu près d'un préparateur physique chacun. Donc, je voudrais dire, attendons un peu, il y a deux blessés au PSG, Luis Enrique qui maîtrise parfaitement son groupe, va faire tourner, peut-être encore plus, parce que cette année, ils ne sont pas épargnés par les blessures, ça permettra peut-être que le Paris Saint-Germain soit encore très compétitif, mais cette fois-ci tout au long de la saison et pas seulement les six derniers mois en Ligue des Champions, comme c'était le cas la saison dernière.
Simon, t'es pas d'accord ?
Non, je suis pas d'accord et je suis très étonné que Pascal, entraîneur, prennent ce parti, parce que évidemment la blessure c'est la hantise du manager, c'est la hantise des supporters. Et on parle d'une équipe qui a réalisé quelque chose, Arthur l'a souligné, d'assez exceptionnel, à la fois dans l'absence de blessures sérieuses tout au long de la saison, pour un effectif, je veux dire, Luis Enrique, il a rincé l'Europe entière à 12, à 13. Il avait un 11 plus deux joueurs qui pouvaient rentrer dans l'équipe. Ce qu'a réalisé Paris l'an dernier, c'est assez quand même
inhabituel.
Oui,
il l'a fait à partir de février.
Oui, et alors Pascal a bossé.
Il a fait 4 mois.
Pascal a bossé les temps de jeu, mais Désiré Doué, il joue très peu en début de saison dernière. On est déjà en train de parler d'un désastre industriel, c'est-à-dire que les 40 matchs de Doué, il les joue sur une période.
50 minutes en Ligue 1 de moyenne par match, sur les 31 matchs disputés.
Oui, d'accord, mais sauf qu'il ne rentre pas dans l'équipe au début de l'année. On dit que Paris a surpayé, Doué. C'est une erreur de casting. Quand tu tournes avec, t'as rajouté Kvara dans la rotation l'an dernier et ça leur a fait du bien. Mais en fait, il y en a un sur le banc et trois qui jouent. Ramos n'était pas concerné. On va voir. Moi, vous savez à quel point j'aime l'attaquant portugais. Mais Kvara a été blessé avant la trêve. Ruiz a été blessé pendant la trêve. Je suis désolé. C'est un vrai problème pour Paris qui doit réussir son entrée en Ligue des Champions, éviter de se faire peur comme la saison dernière, qui doit malgré tout bien figurer dans le classique. Alors évidemment, je suis pas fondamentalement inquiet pour le sort du PSG, notamment en Ligue 1. Mais oui, c'est un
il y a des
problème.
Petites alertes.
Ah, ouais. Si tu gagnes pas contre l'Atalanta et que tu gagnes pas à Marseille, les blessures vont rapidement devenir un problème.
Nous parler du résultat.
On va vérifier si le discours de Luis Enrique sur les mecs qui jouent jamais finalement, mais qui sont soi-disant importants dans l'équipe est fondé. On va voir si la versatilité d'un Kanguin est prouvé. Est-ce qu'il peut jouer aussi bien au milieu? Est-ce qu'il peut retourner devant comme c'était le cas dans ses premiers mois au PSG? On va voir si les petits Mayulu, Mbaye font le taf et sont au niveau pour Paris. Mais oui, il y a quand même des motifs d'inquiétude. Si vous me dites que c'est pas inquiétant que Dembélé et Doué, les deux meilleurs attaquants du PSG la saison dernière, soient au frigo, moi ça me...
Je suis d'accord avec Simon.
Que Dembélé et Doué soient des pièces importantes du PSG, et ils sont blessés, ils ont 4-6 semaines d'arrêt parce qu'il y en a un qui a une élongation, une déchirure, et l'autre, je ne sais plus quel type de blessure.
Mollet.
Ouais, voilà, mollet. Bon, ok, d'accord, mais on est début de saison.
Ouais, mais bon, il y a un match à Barcelone, par exemple, qui sera important aussi hein, pour le PSG.
Dembélé, il fait une saison pleine la saison dernière, ça fait 10 ans qu'il passe la moitié du temps à l'infirmerie. Avant la Coupe du Monde des clubs, il est revenu.
C'est la saison dernière d'Dembélé qui est une anomalie par rapport à sa carrière. Ce n'est pas aujourd'hui où ça devient inquiétant. Il a toujours été un petit peu blessé, etc. Je pense que c'est trop tôt. Oui, à un moment donné, le PSG physiquement peut avoir un impact. Enfin, va payer la saison dernière et cette Coupe du Monde de clubs qui a fini trop tard, etc. Sauf que ce sont pas les seuls. Chelsea, le Real, etc. Il y en a beaucoup comme ça. Et puis aujourd'hui, il y a la Ligue 1 où le PSG est les mains en haut du guédon, en roue libre. Ils peuvent mettre l'équipe B, l'équipe C et ils seront champions. Aujourd'hui, dans le football moderne, ça vous a pas échappé, parce que à l'époque de Pascal, c'était beaucoup plus difficile pour lui. Il avait pas l'effectif du PSG, il avait que 3 changements. Là, ils ont cinq changements, les mecs. Ils ont 5 changements. C'est-à-dire que sur l'ensemble d'un match de Ligue 1, tu changes la moitié de ton équipe de champ.
Bien sûr.
Donc dans la gestion d'un effectif, là,
c'est plus de marge.
Mais il faut avoir les mecs pour changer.
Luis Enrique, pour la Ligue 1, il va faire tourner Lens, il va faire une équipe plus ou moins type contre l'Atalanta, parce que la Ligue des Champions, c'est important, comme tu l'as dit, Simon, qui rentre bien. Cette équipe type va pouvoir enchaîner 3 jours après à Marseille. Et puis, à un moment donné, parce qu'elle l'a dit, moi, j'en ai marre. Il n'y a qu'en France qu'on entend ça. Les footballeurs, s'ils sont pas capables de jouer tous les trois jours, c'est que à côté, ils font n'importe quoi. Donc, ça va, quoi.
J'aime bien
Djokovic. Bien. Ouais. Djokovic a 38 ans. Il joue 5-7. Il a même pas 24 heures de récupération ou 36 heures de récupération. Et le lendemain, il y retourne. Donc, ils veulent éviter les blessures. Ils veulent éviter d'être fatigués. Après un match, ils font de la récup. Le lendemain, ils font leur décrassage. Ils font les soins. Ils bouffent
mais
bien.
C'est ce qu'ils font.
Ils boivent de l'eau.
Je crois que je t'ai jamais vu parler avec une telle intensité.
Ils font pas 20 minutes de tennis ballon et ils rentrent au
Julien. Non, Julien. Mais je suis d'accord sur le départ. Je suis pas. Je suis pas d'accord à l'arrivée. Non.
Mais d'abord,
ils font très bien leur boulot.
Marion, toi, t'es pas préoccupé par la santé physique du PSG. Tu disais, t'es d'accord avec Pascal et Bennett?
Totalement. Et puis, je rajouterais aussi qu'il y a plein d'autres clubs européens qui se retrouvent exactement dans la même situation. Le Real a beaucoup plus d'absents. Le Bayern a des absents aussi. City a des absents. Arsenal a des absents. Tout le monde, la saison dernière, a une saison prolongée à cause ou grâce, comme vous voulez, de la Coupe du Monde des clubs. Tout le monde se retrouve dans la même situation. Faut pas croire que c'est uniquement parce que le PSG a perdu deux joueurs que ça y est, c'est la catastrophe. Faut arrêter de me faire croire ça. Ils ont un banc qui est énorme. Ils vont faire justement tourner sur des matchs de Ligue 1 où ils ont une marge qui est colossale. Donc, pour moi, il y a aucune inquiétude. OK, se retrouve avec deux blessés, mais on est au tout début de la phase de poule de Ligue des Champions. On n'est pas en train d'être sur des matchs couperés où tu te retrouves à perdre tes deux attaquants qui peuvent effectivement te rendre la situation beaucoup plus compliquée. Et aujourd'hui, ils ont quand même un match qui est plus qu'abordable contre l'Atalanta. Faut pas me faire croire que l'Atalanta, c'est Barcelone. Donc après, il y a un calendrier qui se corse un tout petit peu, mais moi, je suis parfaitement d'accord avec Pascal et Julien. Pour moi, ils ont un banc qui est largement capable d'assumer un niveau de jeu pour les qualifier en poule. Et après, tu vas récupérer tes joueurs. Ensuite, qui est des cas particuliers, parce qu'il y aura Hakimi qui va jouer la CAN et que la CAN cette année est au Maroc et que du coup ça va forcément être un niveau de pression supplémentaire pour lui qui va se retrouver peut-être si jamais il ne remporte pas dans un état mental qui peut être plus compliqué à gérer. Ok, mais ça sera au cas par cas sur des moments de la saison qui seront beaucoup plus avancés. Pour l'instant, on est en début. C'est malheureux qu'effectivement le PSG perde deux joueurs en sélection nationale, mais pour moi, c'est pas du tout une situation en train de se dire oh là là, mais attention, ils ont plus aucun effectif. C'est pas possible, ils ont plus d'équipe. Non mais faut arrêter de me vendre un truc qui n'existe pas, s'il vous plaît.
Non mais la saison dernière a tellement été un long fleuve tranquille que pour le Paris Saint-Germain qu'on peut peut-être s'interroger quand on voit des signaux d'alarme dans quelques
depuis
instants.
Février. Ouais. Avant février, c'était pas un long fleuve tranquille. Ils ont fait 4 mois.
Bien sûr.
4 mois et demi où c'était monstrueux, mais avant ils ont galéré.
À la différence d'autres saisons, comme disait Simon tout à l'heure, il n'y avait pas les blessés, les Neymar, les Verratti comme on a eu les années précédentes. Paris a été plutôt protégé la saison dernière et donc on peut s'interroger sur cette saison. On en reparle dans quelques instants. La santé physique du PSG est-elle préoccupante? Tiens, vous allez me dire aussi quel est le match le plus important cette semaine, l'Atalanta ou Marseille dimanche prochain? Allez, supporters parisiens, vous attend au 32-16. Il y a Philippe qui nous attend déjà. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Une pensée pour Christophe Cessieux qu'on vient d'entendre et qui est en récupération. On rappelle.
Voilà, un thème comme ça.
On est sur une famille de bras cassés hein, chez les Cessieux. Je vous le dis, tout le monde est passé sur le billard. Ouais, voilà. Peut-être bon. Que voilà, on est préoccupé par la santé physique des Cessieux. Avec Julien Benneteau, Mario Martoli, Pascal Duprat et Simon Dutin. On parle du Paris Saint-Germain. On se posait la question, est-ce que la santé du PSG, on a des blessés en ce début de saison, est-ce qu'elle vous préoccupe? Tiens, avant de continuer à en parler, on va accueillir Philippe au 32-16, supporter parisien. Salut Philippe.
Salut à tous.
Salut Philippe.
Bonjour Philippe. Bonjour madame, bonjour monsieur.
Ben merci, salut à toi. On espère que tout va bien. Toi tu commences à t'inquiéter un petit peu quand tu vois les premiers blessés?
Oui. Oui. Alors, je suis un peu flippé quand même, j'avoue. Moi qui suis d'habitude très optimiste concernant mon club, j'avoue que là je suis un peu flippé. Cette semaine, je pense qu'elle va être un peu ça va nous donner le là. Je pense déjà cet après-midi, on n'a pas l'équipe type. Cependant, on a quand même des joueurs qui sont quand même costauds. On va voir. Après, on joue l'Atalanta et dimanche prochain, on joue Marseille. Ça va nous donner le là. Voilà. Mais j'avoue que je suis un peu flippé quand même.
Ah ben voilà,
j'en reconnais.
Et vous voyez. Merci Philippe d'avoir composé le 32-16. Il y a de la peur un peu aussi chez certains.
Mais Philippe, c'est que le début de la saison et tu perds quand même que deux joueurs. T'as le reste de l'effectif qui est énorme.
Mais justement, Marion, est-ce que les amis autour de la table aussi, est-ce que ça ouvre pas peut-être déjà la réflexion à faire plus de turnover pour Luis Enrique?
Mais de toute façon, Luis Enrique a toujours aimé faire un turnover. Il a toujours aimé faire rentrer des jeunes en Ligue 1. Il a toujours aimé faire tourner. Alors, c'était plus en Ligue 1 qu'en Ligue des Champions.
En début de saison dernière.
Mais ça a toujours été un entraîneur qui, au départ des saisons, aime faire tourner. Là, pour l'instant, tu perds effectivement deux joueurs pendant 4 à 6 semaines pour l'un et éventuellement 8 semaines pour l'autre. Mais ça reste que sur les débuts de saison, même si, allez, le PSG, on va dire, fait match nul contre l'Atalanta et fait, je sais pas, match nul contre l'OM. Je les vois vraiment pas perdre contre l'OM. Mais fait match nul contre l'OM. On est qu'au tout début. Ça vient à peine de commencer. Me dites pas que le PSG va pas être champion de France, va pas gagner la Ligue 1. Ça, je crois pas une seconde. Et me dites pas qu'ils vont pas sortir des poules en Ligue des Champions. Donc, pour moi, si ça doit arriver, que ça n'arrive qu'en début de saison, c'est beaucoup moins problématique que quand t'arrives sur des matchs couperets en fin de Ligue des Champions, où là, effectivement, si t'as ton 11 de base qui doit être très largement remanié, tu dis que ça va être quand même beaucoup plus compliqué à gérer.
Simon, non, mais je comprends parce que ce débat.
Le demi-retour Ligue des Champions, il commence pas le match.
Ce débat, on le fait en partant du principe que, de toute façon, c'est terminé. Ils vont avoir 2 blessés, donc pour 4 et 8 semaines, mais qu'il n'y en aura pas. Si Kvara se pète contre Lens cet après-midi, ou qu'un des trois au milieu de terrain, on aura l'air malin. Marion, tu me dis, c'est l'Atalanta. Bon, ça, c'est... il y avait des adversaires aussi relevés, mais bon, le calendrier du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, il n'est pas joli. Donc, ça peut vite mal se goupiller et tu te mets dans une situation compliqué. Si tu gagnes pas à Marseille, tu sais très bien ce qui va se passer. La pression, même si bon, Luis Enrique s'en fout et ça, on peut lui prêter foi là-dessus. Mais encore une fois, je suis désolé. À partir du moment où ça compte, Luis Enrique, le 11 il bouge plus. C'est ce que j'ai dit. C'est un 11-12.
C'est normal.
Et donc, moi, qu'on me dise si tu gagnes pas contre
n'importe quel manager de n'importe quel club, à un bout d'un moment, quand il a son équipe titre. Il l'a en tête depuis le début de saison. Il fait vivre son effectif, c'est normal. Surtout quand il y a une cadence infernale. Et puis, à partir de février-mars, son équipe, elle bouge plus.
Parce qu'il bouge plus, mais en cours de match, avec cette
équipe-là, avec laquelle il a des certitudes.
Mais en cours de match, ça bouge, Pascal. Alors qu'avec Luis Enrique, soit t'as Kvara, soit t'as Barcola. En gros, et celui qui démarre sur le banc, il rentre en cours de match. Mais c'est tout au milieu de terrain. T'as les trois lapins du Racel qui bougent jamais parce qu'ils ont une activité incroyable. Il y a absolument aucune variation, sauf lorsqu'il y est contraint. Julien, il dit, moi j'en ai marre qu'on dise ça en France, mais regarde les effectifs, regarde le recrutement qui a été fait à Liverpool, partout dans les clubs anglais, dans les clubs espagnols. Il y a une profondeur de banc.
Justement, Arthur Perrault, qui suit Paris Saint-Germain, ouais, la profondeur de banc, ça peut inquiéter les supporters parisiens.
Alors, je suis pas dans la tête de Philippe, mais pour en avoir déjà échangé avec pas mal de supporters, et c'est ce qui les inquiète. C'est-à-dire qu'on a dit au début du mercato que Paris voulait faire venir des doublures à Hakimi, des doublures à Nuno Mendes, des doublures aussi devant. Bon, finalement, Lee et Ramos sont restés. Derrière, la problématique, c'est que Paris n'a pas trouvé de doublure à Hakimi ou encore à Nuno Mendes. Oui, Paris a passé beaucoup de temps à faire partir des joueurs, voilà, qui étaient en prêt à droite à gauche, que Luis Campos avait fait venir l'été dernier. Mais en fait, c'est ça aussi le problème qui va se poser un moment, c'est que à des postes cruciaux, tout à l'heure Simon donnait les noms de Mbaye notamment, mais il y a pas plus de profondeur de banc que ça, je trouve. Non, en tout cas, personnellement. Arthur, et c'est ça qui va inquiéter un moment quand même.
Hernandez et Zaïre Emery, c'est pas des joueurs de très bon niveau.
Mais Pascal,
ils peuvent pas supplanter les deux latéraux. Je suis pas d'accord avec toi, mais sur des tout petits matchs,
peut-être. Des matchs de Coupe de France.
Des matchs de championnat, de toute façon,
à un moment, va falloir hiérarchiser, Pascal.
Quels sont les petits matchs du Paris Saint-Germain, Arthur? Donnez-moi un match amical.
Typiquement, je ne suis pas sûr que mettre Dembélé face à Angers et le milieu de terrain type titulaire face à Toulouse, ça a été un bon choix, personnellement.
Il y a une question que je voudrais soulever. Pardon, encore une fois, c'est pas à toi, Arthur, que je chope ce matin. Vous savez ce que c'est que trouver la complémentarité chez les joueurs, trouver les bonnes combinaisons entre les joueurs et surtout donner du rythme à ces joueurs. Donner du rythme, c'est de leur donner du temps de jeu conséquent. Donc, Luis Enrique, il a ce devoir, comme tous les entraîneurs du monde, de donner du rythme à ses joueurs, de faire en sorte que certains jouent conséquemment. C'est tout.
Oui, mais bon, c'est vrai que pour le coup, la question est légitime, je pense, aujourd'hui, déjà parce qu'on l'a choisi.
Bravo, bravo à la rédaction.
Non, mais,
surtout, là où je suis complètement d'accord avec Julien, c'est qu'on fait l'étonner en se disant, mais attends, Dembélé est blessé. Il a quand même passé toute sa carrière à être blessé. Oui, c'était une anomalie que l'année dernière, il y a aussi peu de blessures. Donc, a priori, on retrouve quelque chose d'un peu plus normal.
Et mais quand tu vois la surréaction du PSG sur les blessures en équipe de France, ça dit quelque chose aussi. Quand tu vois aussi
à quel point ils sont sur la dentelle, sur la récupération. Ils veulent créer une polémique avec le staff de l'équipe de France et compagnie.
Et sur la récupération et tout ça, ils font de la dentelle. Hein, et Arthur peut le dire. Merci Arthur.
Merci Arthur Perrault d'avoir été à. Salut les GG.
PSG Lens à 17h15. Non, il ne fait pas de la dentelle, Arthur. C'est pas lui. Je vous rappelle qu'on vous fait gagner les places. Pour un PSGOM dimanche prochain sur RMC. Deux places, envoyez classique par SMS au 732-16. Classique par SMS au 732-16. Dans un instant, c'est la fête du sport. Aujourd'hui, fête nationale. Come on! On est bien, on se réveille bien, on se réveille bien, vous êtes bien réveillés sur RMC.
Il a des moves, Pascal.
Il a des moves, Pascal. Ça, il nous le prouve. Il nous le prouve. Il nous en avait parlé, on le voit de nos yeux. Marie Barsac, la ministre des Sports, démissionnaire, est avec nous dans quelques instants. On va parler de la place du sport. Parce que le sport est vraiment à la fête, tiens, d'ailleurs. À tout de suite dans les grandes gueules du sport sur RMC.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Avec Marion Bartoli, Pascal Duprat, Julien Beneteau, Simon Dutin, bonne fête à tous les sportifs aujourd'hui. Et oui, c'est la première fête nationale du sport en France. C'était une volonté du président de la République. Je rappelle, Emmanuel Macron l'année dernière a pris les Jeux de Paris. Aujourd'hui, vous avez, vous qui nous écoutez, 5000 événements gratuits qui ont lieu un petit peu partout sur le territoire. On a une invitée aujourd'hui, les GG avec nous en studio. C'est Marie Barsac, la ministre des Sports démissionnaire, qui est avec nous dans les grandes gueules du sport. Bonjour Marie Barsac.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous en studio aujourd'hui, en cette journée inédite. Il faut le dire et l'expliquer d'abord peut-être déjà. Qu'est-ce que la fête du sport et à quoi doit-elle servir?
Oui, alors c'est une fête qui se veut être en héritage des Jeux de Paris 2024. Vous l'aviez dit à l'initiative du président de la République l'année dernière. Et donc du coup, cette première édition est organisée depuis 9 mois par le ministère avec évidemment le concours de tous les acteurs du mouvement sportif, donc le comité olympique français, comité paralympique, les fédérations sportives, les clubs, pour que résonnent dans tout le pays des initiations sportives gratuites pour tout le monde, puisqu'on est aussi à la rentrée. Aujourd'hui, on a tous envie de faire du sport après les vacances et puis surtout d'inscrire les enfants aux activités extrascolaires. Donc c'est de bon ton de s'initier pour donner envie de rejoindre de nouveaux clubs. Donc ça va vraiment se dérouler toute la journée et ça va être un événement récurrent qui se veut à l'image de la fête de la musique, donc s'inscrire dans la durée, dans le paysage de la France, parce que le sport doit compter en France. Et aujourd'hui, cette fête du sport est un beau plaidoyer pour la place du sport dans notre pays.
À Paris, notamment, on aura des activités un petit peu singulière avec des champions, c'est ça aujourd'hui?
Oui, plus d'une centaine de champions aujourd'hui, boulevard des sports, donc c'est la rue de Rivoli qui est débaptisée pour être le boulevard des sports, donc entre la place de la Concorde et l'hôtel de ville, et effectivement des champions qui vont aller à la rencontre du grand public pour les initier, les coacher. On aura Marie-Josée Perret qui va coacher sur la piste du 100 mètres pour donner envie de rejoindre des clubs d'athlétisme par exemple.
Alors Marie Barsac, hier on était avec Amélie Oudéa-Castéra, la présidente du comité national olympique et sportif français. On sent que l'atmosphère est pas forcément à la fête hein, pour le sport. On craint même une défaite du sport si l'on ne résiste pas aux coupes de budget, aux suppressions par exemple du passeport pour les plus jeunes. On a beaucoup parlé hier, elle a exprimé son inquiétude, tout comme d'ailleurs Marie-Amélie Le Feu, la présidente du comité paralympique, était avec nous la semaine dernière. Vous l'entendez, cette inquiétude qui est presque finalement le sentiment qui domine aujourd'hui, madame?
Oui, j'entends l'inquiétude parce que c'est une inquiétude généralisée sur du budget de la nation. Et donc, du coup, évidemment, le budget du sport fait partie de ces inquiétudes. Ce qui est important de dire quand même, c'est qu'au lendemain des Jeux de Paris 2004, il y a déjà eu un travail qui a été fait pour maintenir les ambitions sur le budget de 2025. Moi, j'ai été particulièrement attentive à ce sujet parce que c'est 10 ans que je travaillais sur l'héritage des Jeux avant de rejoindre le ministère. Et donc, en tant que ministre, pour moi, c'était important de continuer la trajectoire qui fait progresser la place du sport dans notre pays. Donc, pour 2025, on a vraiment limité la casse avec des coûts budgétaires qui, finalement, ne représentent que 6% du budget, donc très raisonnable par rapport aux autres ministères. Et effectivement, là, aujourd'hui, sur le budget de 2026, je travaille sur le sujet. Il y a eu des sujets de discussion. On était sur une première mouture qui, pour moi, n'était pas satisfaisante, justement, pour construire cette trajectoire pour le sport. Et donc, on est encore aujourd'hui... Le sujet reste à discuter, mais j'entends évidemment l'envie de sport aussi des acteurs.
Marie Marsac, la ministre des Sports, est avec nous en direct dans les grandes gueules du sport sur RMC. Les GG, peut-être une question pour Madame la ministre. Pascal.
Oui, Madame la ministre, voilà, j'ai une petite question. Je partage votre enthousiasme, il est communicatif. Merci pour ça. Simplement, il y a quand même des constantes. Moi, je suis un provincial. Il y a beaucoup de gamins qui veulent faire du sport. Il y a beaucoup de bénévoles qui veulent s'occuper d'eux. Mais malheureusement, il n'y a pas de moyens parce qu'il n'y a pas d'espace. Voilà, j'ai connu un club de football que j'ai dirigé, qui a eu la chance de grandir. Mais on partageait un terrain pour 5 équipes, pour ce qui est des entraînements, parce qu'on ne pouvait pas en construire d'autres. Donc, qu'est-ce qui est fait pour qu'on accueille davantage de jeunes grâce à cet élan des Jeux Olympiques et à votre dynamisme, pour que les clubs, les provinciaux, les petits clubs à Paris, eh bien puissent, et les gamins puissent s'épanouir au travers du sport.
Oui, vous avez raison de souligner qu'on doit accueillir massivement des nouveaux pratiquants puisqu'il y a une forte demande. On a vu l'année dernière des pourcentages d'augmentation de licenciés assez majeurs dans beaucoup de disciplines qui ont d'ailleurs performé au jeu. Et donc, c'est une question essentielle. Il y a un plan d'équipement qui a été anticipé, qui a été lancé dès 2023 à l'initiative du président de la République, le plan 5000 équipements de proximité qui aujourd'hui continue de se déployer. C'est 8500 nouveaux équipements sportifs qui sont déjà sortis de terre et on va aller jusqu'à 10 000 l'année prochaine, la trajectoire continue. Ça, c'est déjà très important de le dire. Par ailleurs, parce que ça ne suffit pas, vous avez raison, il y a une forte demande. L'annonce que nous avons faite avec Elisabeth Borne à la rentrée est très importante parce qu'elle va permettre d'ouvrir des équipements sportifs qui sont dans les établissements scolaires et qui sont de très bonne qualité. Donc, il y a aujourd'hui 28 000 équipements sportifs dans les établissements scolaires. Seuls 5 000 aujourd'hui sont ouverts au club le soir et le week-end. Et donc, l'objectif, c'est d'ici fin 2027, ouvrir les 25 000 autres. Ça, c'est essentiel. Là, nous avons vraiment lancé la dynamique. Il n'y a plus de raison de ne pas ouvrir ces équipements qui vont permettre au club de proposer du sport soir et week-end.
Marion Bartoli, une question pour Madame la Ministre, Marie Barsac.
Oui, bonjour Madame la Ministre. Effectivement, moi j'aimerais évoquer un sujet avec vous qui me tient réellement à cœur. Vous avez parlé d'activités extrascolaires pour le sport. Moi je pense à une activité au contraire intrascolaire, intégrer le sport comme une réelle matière scolaire et non comme une activité marginale. Donc est-ce que vous envisagez des partenariats entre le ministère des Sports que vous représentez et l'éducation nationale pour justement intégrer le sport comme une réelle matière, comme les mathématiques, le français, l'histoire, géo, dans le programme hebdomadaire des jeunes français et ça dès le plus jeune âge, voire éventuellement la maternelle.
Alors c'est un sujet qui est déjà dans les programmes. Le PS fait vraiment partie des programmes de l'éducation nationale sur lesquels il y a une forte attention.
Mais un peu plus
beaucoup plus.
Parce que dit Marion.
Donc oui, donc il y a des mesures évidemment sur lesquelles j'ai eu l'occasion de travailler à l'époque où j'étais à Paris 2004 avec l'éducation nationale et qui aujourd'hui se poursuivent. La première, c'est les 30 minutes d'activité physique quotidienne à l'école. Ça c'est important parce que en complément de l'EPS, il faut bouger plus au quotidien. Ce sont les scientifiques qui nous le disent. On doit absolument bouger une heure par jour quand on est entre 6 et 11 ans. Et l'éducation nationale, du coup, fait sa part du chemin puisque 30 minutes maintenant, c'est dans les programmes. Et ça, c'est important. Les enseignants sont accompagnés. Elisabeth Borne était encore à la rentrée devant les recteurs pour leur souligner l'importance du déploiement de ces 30 minutes d'activité quotidienne. Ensuite, nous avons aussi annoncé avec Elisabeth Borne les tests d'aptitude physique à l'entrée en 6e. Ça, c'est très important. C'est nouveau. Donc, ça veut dire que tous les professeurs de PS accueillent leurs élèves de 6e et leur font pratiquer des tests d'aptitude physique. Pourquoi ? Pour d'abord poser un diagnostic sur leur état de forme. Parce que les Français sont trop sédentaires et les petits beaucoup trop. Et donc là, on pose un diagnostic et on peut alerter les parents. Les parents, ils vont recevoir les résultats des tests de maths, de français et de PS. Ça va leur être communiqué pour qu'ils prennent conscience que leur enfant doit faire plus de sport. Et pour encourager les parents à inscrire leurs enfants dans des clubs de sport. Et quant au professeur de PS, lui aussi, c'est une manière d'adapter son programme et de guider l'enfant vers du sport scolaire, voire du sport en club. Donc il y a vraiment, avec cette mesure, une prise de conscience à l'éducation nationale que l'activité physique et le sport doivent prendre beaucoup plus place dans notre pays. Et j'ajouterais qu'Elisabeth Borne aussi, dans sa nouvelle mouture de formation des professeurs des écoles, donne beaucoup plus de temps de formation sur l'EPS pour les nouveaux enseignants. Ça, c'est aussi très important parce que c'est quelque chose qui va être transformatif. Ces professeurs des écoles vont faire les heures d'EPS de façon effective.
C'est la première fête nationale du sport aujourd'hui en France. Et Marie Barsac, la ministre des Sports, est avec nous dans les grandes gueules du sport sur RMC. Simon.
Madame la ministre, cet été, j'avais fait une interview de vous, j'étais à la place de Georges, vous étiez auprès de l'équipe de France féminine de football avant son quart de finale à Bâle face à l'Allemagne. J'avais l'occasion de vous interroger, je vous demandais si vous étiez en colère ou résigné suite à l'annonce des coupes budgétaires dont le sport faisait, comme d'habitude, les frais. J'avais apprécié la franchise de votre réponse puisque vous ne m'aviez pas dit, vous, membre du gouvernement, non, je ne suis pas en colère, vous comprenez, vous n'aviez pas, vous vous étiez pas échappé et vous aviez donc sous-entendu que, oui, ça vous mettait un petit peu en pétard. J'avais envie de vous demander, puisque vous êtes ministre démissionnaire, puisque on attend la nomination d'un nouveau gouvernement, si d'une part vous avez envie de continuer votre mission, puisque vous êtes à un poste, on ne voudrait pas dire ça, qui est peut-être moins sensible que d'autres ministères. Est-ce que vous avez envie de continuer votre mission? Et si d'aventure elle s'arrêtait là, quelles auraient été les mesures, les actions que vous regretteriez de ne pas avoir eu le temps de mettre en place ou de conduire?
Alors, pour répondre très clairement à votre question, si on me demandait si je voulais continuer à être ministre des Sports, la réponse est oui. Mon engagement pour le sport, il n'est pas nouveau. Il n'est pas là depuis que je suis ministre. J'ai toujours travaillé dans le secteur du sport et servir son développement. Donc moi, mon engagement, il est plein entier. Et vous avez raison, cet engagement, il est très concret. Et pour ce qui est du budget du sport, parce que c'est ça ce que la question que vous posez, il était évident que sur le passeport, par exemple, c'est un sujet sur lequel je veux qu'on continue à discuter. Et aujourd'hui, la décision que j'ai prise quand il y a eu la demande de Bercy pour contribuer à des gels et des surgels en cours d'exercice du budget de 2025. Et donc, il a été décidé de réduire l'assiette du passeport pour les enfants entre 6 et 13 ans. Mais pour autant, de relever le taux quand même, je le souligne, pour les enfants et les adultes en situation de handicap et pour les jeunes adolescents à partir de 14 ans, donc c'est 70 euros. Pour autant, ça, je sais que c'est un sujet majeur parce qu'on a besoin de donner un signe positif aux parents qui sont bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire pour mettre leurs enfants au sport. Ça doit faire partie de la rentrée scolaire. On va acheter les fournitures scolaires et on inscrit son enfant au sport.
Marie Barsac, le budget des sports, ça représente rien aujourd'hui dans le fonctionnement de la France. Mabilou Déa-Castéra le disait hier. Pourquoi on s'attaque au sport? Pourquoi? Parce que les Jeux sont passés, c'est plus une priorité, vous le sentez dans les dirigeants politiques autour de vous? Parce que vous dites la première mouture ne me plaît pas, effectivement, sur le budget, sur la suppression du passeport. Mais néanmoins, on vous a quand même imposé ça. C'est difficile aujourd'hui de s'imposer quand on est dans le sport après Paris 2024.
Alors, la décision n'est pas prise pour le budget
bien
2026,
sûr,
vous le savez.
Mais le projet de la mouture n'est pas du tout satisfaisant, vous l'avez dit.
Oui, donc, tout à fait. Mais
ça montre un climat autour du sport aussi.
Oui, la discussion doit se poursuivre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la fête du sport, elle est aussi faite pour ça. Elle est faite pour montrer la force du sport, le pouvoir du sport de rassembler les Français, montrer qu'il y a une envie de sport chez les Français. Quand on voit les.
Mais il faut le montrer à qui ça? Aux dirigeants?
Oui, à nos dirigeants, aux pays.
Ils ne comprennent pas?
Oui, à nos dirigeants, à nos élus, ils le comprennent. Bah, en fait, on est dans un contexte, vous le savez, qui est compliqué. Et donc, on doit se battre pour faire entendre la voix du sport. Et je crois qu'il y a une bonne mobilisation de pas mal d'acteurs. Et
les est-ce que ce n'est pas déjà une défaite de l'héritage de Paris 2024 de devoir se battre?
Non,
justement.
Mais je ne crois pas, parce qu'en fait, on voit ça juste à l'échelle du pays, de notre pays, mais toutes les éditions des Jeux ont connu une déconvenue au lendemain des Jeux. Quand vous regardez Londres, ils ont une trajectoire de financement du sport qui a été catastrophique. Et d'ailleurs, la pratique sportive a largement décliné au lendemain des Jeux de Londres. Ça a été pour moi un exemple et un moteur quand j'étais à Paris 24 pour construire cet héritage et l'anticiper. Donc moi je ne crois pas. Je crois que si on se bat autant aujourd'hui, c'est surtout pour faire progresser le sport dans une trajectoire. Il faut continuer la dynamique parce que nous on est convaincus qu'il y a une envie de sport. Maintenant il faut lui donner des moyens et l'envie de sport elle doit se traduire dans plein de domaines. Pas seulement avec des moyens du ministère des Sports mais aussi à la santé. Nous avons annoncé une stratégie sport-santé avec le ministre de la Santé il y a 15 jours. Il y a des moyens aujourd'hui dans les ARS qui sont dédiés à l'activité physique et sportive adaptée notamment pour des publics fragiles et donc ça c'est tout aussi important.
Julien Benetour.
Non mais justement c'est oui. Pardon.
Santé.
Concrètement en fait aujourd'hui il y a des beaux discours, on sent qu'il y a une volonté en tout cas de quand il y a certains acteurs qui sont au pouvoir. Hier, on a eu Amélie Oudéa-Castéra qui a été ministre des Sports et des Jeux Olympiques. Vous êtes là ce matin, vous tenez ce discours positif envers le sport. Et en fait, concrètement, tout le monde, tous les acteurs politiques, à un moment donné, quand ils sont amenés à parler du sport, ils disent « c'est fantastique, c'est bon pour la santé, ça fait du lien social à l'école, sur le sport du haut niveau, ça rassemble le pays, quand on voit la Coupe du Monde de football, la Coupe du Monde de rugby, les audiences télé, les plus grandes audiences télé, c'est ce que je me répète par rapport à hier, mais je suis désolé, c'est le sport. Les Jeux Olympiques et Paralympiques de l'année dernière, c'est les plus beaux Jeux Olympiques d'été qui ont jamais été organisés. Le pays s'est arrêté. Il y a que Léon Marchand qui fait qu'à un moment donné, quand si on n'est pas devant la télé, dans la rue, on s'arrête pour regarder. Et tout le monde applaudit, tout le monde se sert d'un... On dit qu'il est pour les enfants, c'est bon. Et on est toujours... entre guillemets, ce que disait Marion par rapport à la place du sport à l'école, même s'il y a plus de PS à l'école, bon, on sent que c'est pas valorisé, que c'est pas que pour le sport de haut niveau, il faut se battre pour avoir les budgets, que pour qu'on soit vraiment un pays de sport au sens propre, qu'il faut que les sportifs s'engagent. Et vous avez de la chance. Là aujourd'hui, il y a beaucoup d'anciens champions olympiques ou des champions olympiques qui sont là, qui répondent présents. Le Paris 2024 a sollicité énormément d'athlètes ou d'anciens athlètes via la commission et tout le monde a répondu présent dans le milieu du sport. Mais à un moment donné, on se pose la question. Oui, les premiers ministres, ils sont là, ils viennent à la finale du championnat de France de rugby, ils viennent à la finale de la Coupe de France de football, ils sont contents, etc. Mais derrière, concrètement, quand il faut mettre le sport en avant dans la priorité. Alors, ça peut pas être pas de priorité, mais je veux dire, vraiment, dans l'importance qu'il a, il y a un décalage. Alors, concrètement, comment un jour on va arriver à combler ce décalage?
Je crois que des événements déjà comme la fête du sport aujourd'hui sont importants. Ça va participer à mettre vraiment le sport dans notre quotidien, dans le paysage de la France à la même échelle que la culture avec la fête de la musique. Ça, c'est déjà un premier point important. Moi, je veux juste quand même souligner par rapport à ce que vous disiez que l'investissement dans le sport, il est quand même réel depuis quelques années. Là, on parle de coupes budgétaires et d'ailleurs pas que pour le sport, pour tout le pays. Mais il y a une trajectoire très significative de financement conséquent du budget du sport depuis 2017 parce qu'on a obtenu les Jeux et qu'il y a une vraie volonté de tous les acteurs, le président de la République en tête, mais les gouvernements suivis, pour investir dans le sport. Et donc la trajectoire budgétaire du budget du sport, elle a fortement augmenté depuis 2017 parce qu'on avait les Jeux. Là, elle a diminué, je vous le disais, en 2025, juste parce qu'on a enlevé 140 millions qui étaient les primes des médailles et le financement des fêtes et des célébrations des Jeux dans les territoires en 2024. Et pour le reste, c'était moins 6%. Mais malgré ces moins 6%, on a par ailleurs augmenté, moi j'ai rajouté 6 millions d'euros sur la haute performance pour soutenir les athlètes et la préparation de Milan, LA et la perspective de 2030. Donc ce qui veut dire qu'il y a quand même aujourd'hui une politique sportive qui est volontariste sur le sport, notamment le haut niveau, parce qu'on a besoin d'athlètes qui performent pour donner envie aux Français et notamment aux enfants de faire du sport. Ça, c'est une démonstration essentielle et là, on y croit beaucoup. Et moi, je remercie très, très chaleureusement tous les athlètes qui sont présents aujourd'hui parce qu'ils ont un rôle majeur. Mais encore une fois, on doit tous montrer que le sport progresse et la trajectoire du financement du sport, elle progresse. Un dernier exemple, on va quand même accueillir dans notre pays en 6 ans des Jeux Olympiques d'été, des Jeux Olympiques d'hiver. C'est des investissements aussi du pays pour organiser ces Jeux et pour donner des moyens au sport. Donc, il ne faut pas qu'on soit les premiers, nous, à dire que ça va pas, alors qu'il y a quand même plein d'indicateurs qui montrent que ça marche, mais il faut être battant pour obtenir les bons arbitrages. Je suis d'accord avec vous.
Merci beaucoup Marie Barsac, ministre des Sports en cette journée de fête nationale du sport, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.
Merci beaucoup
d'avoir été dans les grandes gueules du sport. On va évidemment être sur place hein, tout au long de la journée avec nos reporters RMC pour faire vivre cette journée. On revient dans quelques instants dans les grandes gueules du sport pour parler notamment du 100 mètres. Vous savez que c'est l'épreuve reine aujourd'hui au monde de l'athlétisme. Est-ce que le 100 mètres vous fait encore rêver? On vous attend au 32-16 sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.